France Inter. Frédéric Métaiseau. Le 6-9.
L'invité du grand entretien de France Inter est Jean Viard, sociologue et directeur de recherche au CNRS. Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Précisons que vous aviez été candidat pour La République En Marche lors des dernières élections législatives dans le Vaucluse. Jean Viard, vous publiez « Une société si vivante » aux éditions de l'Aube. C'est sorti en début d'année. En mai 2018, Jean Viard, vous expliquiez, je vous cite, « qu'il manque une pensée territoriale de la Macronie ». 6 mois après ce diagnostic, avec ce réveil des gilets jaune, elle manque toujours cette pensée.
Ah ben on l'a vu, hein. Et c'est vrai, vous citez cette phrase de mai, j'ai même fait un gros rapport qu'a publié la Fondation Jean Jaurès, qui s'appelait Redessiner la France, où je disais au fond, les métropoles avancent, on ne protège pas nos terres arables, et ceux qui sont entre les terres arables, c'est-à-dire la moitié du sol de France, les terres arables, c'est celles qui nous nourrissent.
Ou on cultive.
On cultive, et on devrait cultiver pendant des siècles. Et celles, effectivement, du cœur des métropoles, au fond, l'essentiel des habitants, ils habitent dans les banlieues ou dans le grand périurbain, ou dans la France, on appelle l'axe central désertique, enfin désertique, pas désertique, mais
moins
peuplé, restant extrêmement courtois. Bien. Donc tout ça me surprend pas du tout. D'ailleurs, si vous remarquez bien, depuis le début de cette crise, je suis intervenu pour essayer de l'expliquer, de montrer qu'elle avait du sens, etc. Je suis pas une façon forcément de soutenir, mais c'est mon rôle. Enfin, dans des intellectuels, on est là pour dire, attention, etc. Bon. Au fond, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une chose simple, c'est que il y a ces gens qui habitent là. Moi, j'appelle ça la révolte des pavillons. Pour faire caricature, mais c'est un peu ça. C'est beaucoup des gens qui ont été construits des maisons.
Des lotissements,
à côté ou des grandes métropoles, ou même à côté de Limoges, à côté de petites villes. On a quitté les villes, on est allé s'installer autour, on se retrouve souvent isolé, chacun dans son pavillon. Souvent, on n'est pas là depuis longtemps. Vous voyez, l'autre jour, j'étais à un rond-point à Mazan, il n'y avait personne qui était habité là depuis plus de trois ans. C'est un cas particulier, mais il y avait un qui était là depuis 8 ans. Donc ça veut dire que ces gens, ils sont déliés de la société. Il y a beaucoup de femmes seules aussi. Et au-delà de ça, d'un coup, effectivement, on a baissé leurs revenus, et continuellement, il y a une étude qui vient de sortir qui dit que prenez les femmes seules avec enfants. En France, c'est le cœur de la pauvreté. Il y a 25% des mamans seules avec enfants, c'est épouvantable. Et bien, effectivement, leurs revenus disponibles, une fois payés les charges fixes, a baissé de 6% sous le quinquennat de François Hollande. Et il a continué à baisser là. Donc, si vous voulez, si effectivement les revenus des plus fragiles baissent, et qu'en plus, on s'en rend même pas compte parce qu'on fait des statistiques où à un bout, vous avez les ordinateurs importés qui ont baissé et les pommes de terre qui ont augmenté, c'est sûr, on peut dire que c'est égal. Sauf que bon, dans les milieux populaires, c'est pas égal. Donc, si vous voulez, c'est un problème de niveau de vie, c'est un problème de gens déliés, qui ont peu de liens. Et puis, à un moment, effectivement, c'est un problème d'un gouvernement que je suis pas contre, puisque vous l'avez cité sur les policiers, mais j'ai dit il y a longtemps, d'ailleurs, à votre radio, il y a le pied droit, on voit pas le pied gauche.
Ce pied gauche, est-ce que c'est seulement la nécessité d'avoir des mesures sociales, des mesures de soutien à l'économie, ou est-ce qu'il faut aussi des aménagements du territoire, comme on disait avant? Parce que, Jean Viard, on va pas relocaliser tous ces gens à la périphérie des villes, dans les villes par exemple.
Non, on a...
Alors
on
comment
a...
on change leur vie?
Mais d'abord, il faut se dire que les gilets jaunes, c'est la même géographie que les électeurs de Trump, que les électeurs du Brexit, ou que les électeurs qui ont voté pour l'indépendance de la Catalogne. C'est-à-dire ce grand périurbain qu'on a construit depuis 50 ans, avec les meilleurs, j'allais dire les bosseurs, c'est des couples biactifs qui avaient deux diesels, qui ont travaillé. Pour eux, c'était la réussite sociale. Ils ont souvent quitté le HLM, les dames se sont mis au travail, puisqu'on est passé de 50% de femmes actives à 83%. Donc c'est vraiment des couples qui ont investi sur la propriété privée, du travail, avec à une certaine distance de l'emploi. Moi, j'habite dans ce territoire. On voit bien ces gens, ils arrivent, ils achètent une maison, ils connaissent personne, et au fond, ils ont besoin de rien. Puis un jour, il y en a un qui perd son boulot, et un jour, on est très surpris parce que ces gens qui, ils arrivent à la commission de RSA, etc.
De surendettement.
De surendettement et tout, on est surpris parce qu'on avait l'impression que c'était ceux qui avaient les moyens. Bon. Et donc, si vous voulez, c'est cette population-là qui est perdue là-dedans. La question que ça pose, il y a effectivement une énorme question démocratique, parce que si on n'a pas arrêté de bricoler la démocratie, on a supprimé le lien entre les députés et les territoires. Du coup, ces députés sont hors sol. C'est pas tellement qu'ils sont en marche, on va dire, c'est qu'ils sont hors sol.
C'est quoi? C'est le non-cumul des mandats dont vous parlez?
Mais bien entendu, le non-cumul des mandats. On a retouché au mandat présidentiel. Donc maintenant, au lieu d'avoir des élections plus régulièrement, on en a tout. Là, il y aurait une élection l'année prochaine. Le mouvement, tout naturellement, irait vers l'élection. S'il y avait comme aux États-Unis, tous les deux ans, une élection. On pourrait très bien décider que l'Assemblée nationale se remplit par moitié tous les deux ans. Et puis, au niveau local, on a fait des communes, des communautés de communes, des départements, des régions. Personne n'y comprend rien. C'est vide. Les maires n'incarnent plus le territoire.
Tiens, parlons-en de ces régions. En 2014, Jean Viard, questionné sur le redécoupage des régions de France, vous aviez dit que c'était plutôt une bonne démarche. En gros, ces régions étaient organisées autour des grandes métropoles. Les noms de régions, il n'y a plus d'Alsace, il n'y a plus de Lorraine, il n'y a plus de Champagne, il n'y a plus de Picardie, il n'y a plus de Limousin, il n'y a plus de Provence chez vous. Ça s'appelle Grand Sud.
Oui, mais la question, si vous voulez, c'est de se dire...
Ça aussi, c'est une perte de repère.
Non, mais il y a la perte de sens des mots. Mais après, ça n'empêche pas d'habiter en Provence ou en Corse. Je veux dire que les régions...
Oui, mais symboliquement. Vous n'habitez plus en Provence, Alpes-Côte d'Azur, vous habitez en Grand
Le
Sud.
Le Pays Basque n'était pas une région. Je veux dire, il y avait déjà... La Lorraine n'était pas une région. Donc, si vous voulez, c'est...
Si la Lorraine, excusez-moi,
l'exemple est mauvais, passons. Mais je veux dire là-dessus, l'enjeu, il était quoi? L'enjeu, c'est de comprendre qu'on est dans une société qui vit une révolution numérique, qui est aussi déstructuriste que celle de la révolution industrielle du XXe siècle. Autant. Dites-vous simplement, on est 4 milliards à s'être connectés sur Internet depuis 2007. 4 milliards! Et on a vendu 6 milliards de téléphones portables sur cette planète. Donc il faut arrêter de raisonner avec le monde d'hier, parce que sinon on va exploser. Et de l'autre côté, moi je dis toujours 60% des bébés naissent hors mariage. C'est-à-dire, la société a quitté par choix volontaire les cadres anthropologiques, la famille, le syndicat, le parti politique, etc. Et donc tout ça c'est déstructuré. Pourquoi? Mais parce qu'on fait 50 km par jour et que l'ouvrier d'usine, il habite pas à côté de son copain, etc. L'ouvrier, l'employé, le médecin. Et donc on a une vie territoriale que les gilets jaunes sont en train d'exprimer. Et au fond, il n'y a plus de classe sociale en termes de classe territorialisée. Je dis pas qu'il n'y a pas de classement des riches et des pauvres, me faites pas dire n'importe quoi. Mais on voit bien qu'avant, une classe sociale, c'était bien en cours, le quartier rouge, la maison du peuple, etc. La société s'est explosée, mais dans le monde entier. Donc je veux dire, si on veut regarder la société en disant on va la reconstruire comme celle d'hier, on peut le dire, mais on n'y arrivera pas.
Et reconstruire une société de demain, alors, ce serait quoi?
C'est toute la question. C'est-à-dire, effectivement, on voit bien que dans les grandes métropoles, au fond, elles n'ont pas suivi le mouvement, en gros. Pourquoi? Mais parce que là, elles sont dans la lumière, elles sont dans le sens du mouvement. À Paris, tout le monde sait que c'est Madame Hidalgo. Et c'est-à-dire, ils ont l'impression d'être incarnés par une figure politique qui soutient ou pas, mais qui incarne. Bon, vous habitez entre Paris et Amiens. Vous êtes incarné par qui? Il y a des tas de petites communes. Bon, moi, à Marseille, par exemple, on avait, je sais plus combien on avait. On avait 500 élus dans toutes les petites communes de la métropole. Donc, il y a plus d'incarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas repensé le territoire du politique pour que les gens aient l'impression d'être incarnés. Il y a un lieu où on parle. Vous savez, il faut faire des choses simples. La première, c'est de dire ces gens-là, au fond, ils ont réinventé la maison du peuple, sauf que c'est sur les ronds-points. Je vous signale qu'en France, on a fait 50 000 ronds-points.
C'est
3 ou 4 milliards. Donc quand on parle d'investissement par les mairies, moi je dis investissement par les mairies, je dis gabegie publique pour une bonne partie. Il faut faire attention.
Redites-nous le coût total de ces ronds-points.
C'est entre 2, 300 000 et 1 million. Ça dépend au milieu du monument qu'on y met, des systèmes d'entretien par arrosage. Mais vous rendez compte, les Américains en ont 5 000, les Allemands en ont 10 000. Je veux dire, on n'est pas plus con que les autres. Un maire qui n'en a pas 3 ou 4 n'est pas un grand maire. Bon, dans ma commune, on vient de faire le 4e rond-point. Mais il n'y a pas de carrefour, c'est une rue longue qui traverse le village. Je dis pas qu'ils sont totalement inutiles, mais ce que je veux dire, c'est qu'un tourné à gauche, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, si vous voulez, on est un pays de rationalité. Quand il y a une nouvelle idée, on l'applique partout. Alors moi, je vais vous dire, là où il y a eu des ronds-points avec les gilets jaunes, mais installez une maison du peuple. Donnez-leur un local, qu'ils puissent se réunir, qu'ils puissent ne pas être dehors sous la pluie. C'est comme ça qu'on avait créé, au fond, les bourses du travail. Dans l'époque ouvrière, eh ben, on créait des maisons du bourse, du travail, pour que les syndicats se réunissent, etc. Créons des lieux démocratiques. Après, si vous voulez, la question du référendum sur lequel ils sont très sensibles, ça n'a de sens que si on les prépare. Un référendum, c'est des mois de débat, c'est des comités de réflexion. C'est pas qu'on lève le matin et qu'on lève la main, moi je veux ça, moi je veux ça. C'est compliqué à une société. Mais si on peut faire des référendums, je dirais très avec un débat public, organisé, structuré, pourquoi pas? Et puis surtout, il faut accepter, si vous voulez, que nos députés représentent quelque chose.
Jean Viard, ce matin, dans le Figaro, Luc Ferry, justement, publie une chronique sur le référendum d'initiative citoyenne. Il dit que c'est le concours Lépine de la démagogie garantie.
Mais il a raison. Si on le fait n'importe comment, Il a raison. Mais ça pourrait d'abord commencer par des sujets régionaux ou communaux. On n'est pas obligé de faire ça. Ça veut dire qu'il faut aussi, vous savez, moi j'avais participé, le Nord a longtemps fait ça. Comment on tire des citoyens au sort? Comment ils viennent pendant 5 week-ends se former avec des spécialistes? Moi je suis allé rencontrer des gens comme ça. Comment au bout de 5 week-ends où ils ont travaillé avec un spécialiste, ce groupe de 40 personnes tiroisa va donner un conseil aux élus? Et d'un coup, ils ont réfléchi avec une expérience tout à fait intéressante. Je dirais démocratie participative. C'est pas que chacun lève la main comme ça lui passe. Non, c'est que les gens acceptent de travailler un sujet, de le regarder, de discuter entre eux pour construire une conviction collective. C'est ça la démocratie. Elle peut être représentative ou elle peut être par référendum, mais de toute façon, c'est toujours un énorme travail.
Vous nous disiez tout à l'heure, Jean Viard, qui manquait en quelque sorte la jambe gauche à En Marche. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron il y a de cela 3 semaines, c'est essentiellement l'État qui va les prendre en charge, la hausse de la prime d'activité, le relèvement du plafond de la CSG, la défiscalisation des heures supplémentaires. Il y a comme un inavoué, c'est l'État qui prend ça en charge. On oublie que les salaires sont bas en France.
Ben, c'est vrai, c'est pas vrai. Si vous prenez les retraites, par exemple, on est de loin un des pays, les retraites d'abord sont légèrement plus élevées que le salaire des actifs.
Donc ça, raison de plus, preuve supplémentaire que les salaires ne sont pas si haut que ça en France.
Non, ça c'est vrai. Mais non, je dis ça parce que on dit, si vous voulez, 80% des retraités sont propriétaires. Ça aussi, ça compte parce qu'on donne le revenu des retraités, mais pas le fait qu'ils soient propriétaires. Ils n'ont pas de loyer. Je veux dire, il faut être un peu honnête dans les chiffres. Hein. Et c'est à expliquer d'ailleurs la hausse de la CSG, même si 1 200 euros, c'était beaucoup trop bas. Je l'ai toujours dit, donc je ne me gêne pas de le répéter.
Maintenant, ce sera 2000.
Voilà. Mais si vous voulez, donc il y a un moment d'égalité entre les générations. Ça, c'est une chose normale. Mais après, si vous voulez, ce qui n'est pas normal, d'une part, c'est qu'on ait baissé les retraites en les désindexant parce que c'était pas le contrat avait été donné au départ.
Mais les salaires versés par les entreprises...
Les salaires sont bas. Le problème, c'est que nous, nos salaires sont des salaires qui montent tout au long de la vie. La plupart de nos collègues européens, on va dire, vers 50 ans, on arrête d'augmenter les salaires. Pourquoi ? Ben parce que c'est absurde de continuer à augmenter les salaires après 50 ans, alors que les enfants sont partis et qu'on a acheté la maison. Et donc, d'une certaine façon, les salaires montent beaucoup plus vite au début de carrière. Et puis après 50 ans, ils ne montent plus. Ce qui correspond à la charge de la vie. C'est-à-dire, en gros, on démarre dans la vie, c'est le moment où on va faire des enfants, on va avoir besoin d'un logement, etc., mais il faut que les salaires augmentent vite. La question, c'est la courbe du salaire dans la durée du salariat. Nous, tant qu'on considérera que plus on est vieux, plus on doit gagner plus, on est dans une grande difficulté à l'intérieur des entreprises.
Jean Viard, vous parliez tout à l'heure de Français, de citoyens qui sont déliés. Ils ont quitté le syndicat, ils ont quitté la paroisse, ils ont quitté le parti politique. Ils rechignent aussi à payer l'impôt, alors que l'impôt, c'est un lien important avec... la République,
oui, mais
l'État et la démocratie.
On peut pas tout généraliser. D'abord, les gilets jaunes, c'est des gens très différents. Il y en a beaucoup qui travaillent dans des petites entreprises. J'ai vu une étude de sociologue de Bordeaux. Ils avaient fait une étude là-dessus. C'est intéressant. Dans des très petites entreprises. Parce que le tissu économique français, c'est de plus en plus des petites entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours à la machine à café, le patron et les salariés discutent. Et donc, ils vont pas tous les jours s'engueuler sur tu pourrais pas m'augmenter de 50 euros. Ils vont tous les jours s'engueuler en disant, oh, s'il y avait pas tant de charges, je vous augmenterais volontiers. Donc, on est d'accord contre l'État. Ce qui est pas vrai dans les très grands groupes. Parce que dans les très grands groupes, bah, le patron ne discute pas avec chacun de ses salariés.
Et il s'est peut-être mieux optimisé.
C'est pour ça, à un moment, j'ai dit, c'est un mouvement qui a une dimension poujadiste. Oui, parce que le poujadisme, c'était ça. C'était une alliance des petits patrons et des petits salariés contre l'État. Il y a une dimension.
Comme les bonnets rouges.
Quoi?
Comme les bonnets rouges.
Tout à fait. Donc, il y a cette dimension. C'est une des dimensions. Mais il y a beaucoup de femmes seules avec enfants. Écoutez, le statut des femmes seules dans ce pays est une honte absolue. Je veux dire, dans les quartiers populaires, vous voyez, je connais très bien Marseille, il y a 40% des logements occupés par des femmes seules avec enfants. Souvent, elles n'ont pas le permis. Souvent, elles n'ont pas fait d'études. Souvent, elles ne touchent pas de pension alimentaire. Je veux dire, il y a plus d'un million d'enfants. Il y a presque 2 millions d'enfants dans ces familles. Vous croyez vraiment que ces enfants ne vont pas nous poser des problèmes après? Enfin, c'est une situation absurde. On s'est bien occupé des femmes seules après la guerre de 14-18 parce que c'était des veuves de guerre. C'était très honorable. Et elles étaient des associations puissantes et on leur a donné des moyens intérêts. Et puis petit à petit, la femme seule a été considérée... Bon, vous voyez ce que je veux dire.
Une femme de mauvaise vie.
Or nous, 60% des enfants vivent hors mariage. Le mariage est terminé, il faut dire les choses brutalement, même si effectivement ceux qui veulent se marier, tant mieux pour eux. C'est une minorité. Il faut penser cette société. Ça veut dire aussi que ces femmes n'auront pas de réversion de pension. Tant que la réversion est liée au mariage, ces femmes n'y ont pas droit, ce qui est absolument scandaleux. La réversion doit être liée à l'enfant. Il faut qu'on fasse évoluer les choses pour qu'on ait des réversions en fonction du nombre d'enfants qu'on a eu avec un conjoint.
Et non pas de la façon dont on a été lié à son
conjoint. Le statut juridique n'a rien à voir. dans le fait, effectivement, qu'on a dépensé de l'argent pour élever un enfant. Ce que je veux dire par là, excusez-moi de faire de la pub, mais il faut qu'on gouverne avec des sociologues, des économistes, des humanistes. On ne peut pas gouverner une société avec des statistiques de l'INSEE, parce que ce sont des moyennes.
On va revenir sur la place des intellectuels tout à l'heure, Jean-Vierre, mais là, on va au Standard de France Inter. 01 45 24 7000, bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, ma question était, est-ce que la crise des gilets jaunes ne serait pas liée au fait que nous avons des élus qui veulent absolument nous expliquer comment nous devons vivre, alors que quand on vote pour eux, c'est pour pouvoir vivre comme on en a envie.
Merci beaucoup Laurent. Jean Viard.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais après, comme on est 63 millions à avoir envie de vivre comme on en a envie, il faut mettre un peu de musique, parce qu'il y en a qui trouvent qu'il y a trop de charges, il y en a qui trouvent qu'il y a trop d'aides sociales, etc. Le rôle des... Vous savez, une société, c'est par naissance contradictoire. Il y a des patrons qui créent des entreprises, il y a des salariés, il y a des professions indépendantes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des personnes âgées qui ont plus peur dans la rue parce qu'elles sont plus vieilles, etc. Donc, une société, c'est une négociation permanente entre des trajets différents. Le problème, c'est quand cette négociation n'est plus vivante. Et quand on a l'impression qu'une fois qu'on a élu quelqu'un, ben finalement, il vous dit « j'applique mon programme ». Mais dans une société comme la nôtre, où on a Internet, où la plupart, on a augmenté le niveau d'études, le niveau d'information est extraordinaire, même si des fois catastrophique sur certains médias en continu. Mais je veux dire, n'empêche que, on a un niveau d'information, etc. considérable. Donc du coup, effectivement, sans arrêt, le politique doit se relégitimer. Mais vous savez, moi, quand je faisais un cours à la fac, c'est pareil. Si vous prenez pas chaque fois pouvoir sur la classe, avec une blague, éventuellement, une fois en arrêtant de parler, parce qu'il y a un type qui arrive en retard, ou un type qui ouvre son téléphone, vous en sortez pas.
Allez, on retourne au Standard où nous attend Magali. Bonjour Magali.
Bonjour, bonjour messieurs.
Bonjour.
Tout à l'heure, j'étais un petit peu interpellée lorsque vous avez comparé le mouvement des Gilets jaunes avec les électeurs de Trump.
Alors, si j'ai dit que c'était le même territoire,
alors,
madame.
On écoute Magali et Jean-Vierre va vous répondre. Pardon. Magali.
J'étais un petit peu estomaquée, d'autant que je suis moi-même gilet jaune, que j'en côtoie énormément depuis un mois, hein, on va dire.
Dans quelle région, Magali?
Je ne me sens pas du tout électrice de Trump, enfin dans l'image, hein. Je voudrais bien que vous m'expliquiez la comparaison. Je comprends pas au réveil.
Eh bien, Jean Viard vous répond, Magali. Restez en ligne.
Non, je veux pas vous injurier de bonne heure comme ça. Ça serait mauvais pour votre journée. Non, ce que je dis simplement, c'est que c'est la même géographie. C'est le grand périurbain. Pavillonnaire bien souvent, ouvrier pour l'essentiel, puisque les ouvriers ont quitté les villes depuis 30-40 ans. Donc c'est au fond des populations travailleuses, bosseuses, qui ont souvent construit des pavillons, ou qui sont allés habiter à côté des... ou qui habitent dans des territoires relativement dépeuplés. Il y a les deux phénomènes. C'est la même géographie, j'ai dit. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les gens qui se sentent le plus désaffiliés, j'allais dire des grandes villes, qui perçoivent, on dit toujours les bobos, on dit toujours la révolution numérique, on dit toujours circuler en vélo. Ben, je dirais qu'il y a les gens qui circulent en vélo, les gens qui circulent en voiture. Vous voyez, moi, j'habite 30 km d'une ville, le vélo, à mon âge, c'est pas possible. Donc, c'est cette société-là. C'est ça que j'appelle ça. Et je pense, si vous voulez, que cette partie de nos sociétés, c'est-à-dire ce que j'appellerais l'ancien monde du travail, mais qui va continuer à exister, il y aura toujours des boulangers, des infirmières, etc. Mais aujourd'hui, les métiers qui attirent, on voit bien les jeunes. Ils veulent tous être dans le numérique. Essayez de trouver un jeune qui veut faire plombier, charcutier.
Il y en a encore.
Il y en a, mais c'est une énorme difficulté à trouver ses compétences, etc. Discuter avec n'importe quel artisan, un carrossier, chercher des carrossiers, c'est très difficile. Dans mon village, le carrossier vient d'épouser, d'engager un Syrien. Il me dit, ça fait des mois que je trouve personne sur la carrosserie. Pourquoi? Parce que on a mis aux jeunes dans l'idée que ces métiers-là n'étaient moins honorables que les autres, ce qui est totalement absurde. Et donc la question, c'est de mélanger les deux Frances. Je dirais la France qui travaille avec une souris et la France qui travaille avec son corps. Et c'est ça qui me semble absolument essentiel, et c'est ça que pour l'instant la Macronie n'a pas bien fait.
Il est 9h20, bonjour Benjamin. Est-ce que Benjamin est en ligne? Oui, bonjour Benjamin, on vous écoute. Non, Benjamin n'est pas là. Alors on va jeter un coup d'œil sur l'écran de franceinter.fr. Une question de Françoise qui prolonge en quelque sorte celle de Magali, qui dit « Est-il pertinent de calquer la carte du vote Front National et la carte des mobilisations Gilets jaunes ?»
Non, non, alors, d'abord, parce que c'est pas vrai dans l'Ouest. Et dans la France de l'Ouest, la mobilisation gilets jaunes a été extrêmement forte. Alors on pourrait dire il y avait déjà eu les bonnets rouges, mais et la France de l'Ouest est très peu Front National. Donc on voit bien que ça se superpose pas. Après, ce qui est vrai, c'est que le Front National a été un parti au départ urbain, des quartiers ouvriers et il a essaimé dans le grand périurbain. Je dirais souvent, parce que les gens des quartiers ouvriers, depuis le début du Front National, ont déménagé. Il y a 3 millions de Français qui déménagent tous les ans. Donc, si vous voulez, la population française est très mobile. Et donc, effectivement...
Cette société vivante dont vous parlez.
Mais oui. Et donc, une bonne partie des gens qui votent Front National dans les villages, en fait, ont d'abord voté Front National dans les villes. Mais la question, c'est que ça n'est pas la même géographie, parce que dans le cœur du Massif Central, la diagonale du vide, comme dit Hervé Lebras, c'est pas des zones d'extrême droite, même si la majorité des paysans ont voté Front National. Ne soyons pas naïfs non plus, je veux dire. Mais on pourrait dire les choses à l'envers. C'est le territoire qui se sent le moins intégré à la société qui est en train de naître, qui a commencé par crier en votant Front National, et qui aujourd'hui exprime sa colère. Ça ne veut pas dire que c'est des gens Front National, la plupart d'entre eux, s'ils disent ça, ils vont me dire « mais tu racontes n'importe quoi », ils auront raison. Mais c'est la même territoire de la souffrance sociale, mais ce n'est pas la souffrance sociale des banlieues, ce n'est pas la souffrance sociale de ce qu'on appelle les assistés qui vivent d'aide sociale, c'est la souffrance sociale de ceux qui bossent et qui ne s'en sortent plus parce qu'on a trop augmenté les charges.
On a retrouvé Benjamin au Standard, bonjour.
Bonjour, je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous de l'obstination des pouvoirs publics de vouloir imposer le site d'Europa City au nord de Paris qui va détruire 600 hectares de terres arables très agricoles et formidables à moins de 30 km de Paris au profit des bétonneurs et surtout sur une décision de technocrates au profit des bétonneurs.
Merci beaucoup Benjamin. Alors, précisons, Jean Viard, que vous avez été consulté par les promoteurs de ce projet.
Moi, j'ai été consulté comme spécialiste du tourisme, je vais vous dire, dans ce projet.
Alors, Europa City, 600 hectares près de Roissy.
C'est en gros un immense centre commercial bâti autour d'un palais des congrès, de 2400 chambres de résidence, de 2 palais des congrès et de beaucoup de lieux culturels. L'idée, au fond, c'est d'inventer, disons, c'est le laboratoire du supermarché de demain. Je ne sais pas si ça se fera jamais. La question, c'est que le supermarché d'hier, c'est-à-dire la boîte, est un modèle en voie de disparition. C'est pas amusant, on s'ennuie. D'ailleurs, quelque part, les gilets jaunes, c'est des gens du supermarché. Dans leur territoire, souvent, on se repère par rapport au supermarché. Moi, je connais bien ce territoire. Et donc, le lieu référent, c'est pas l'église, c'est pas la mairie, c'est le supermarché. Et donc, le supermarché est en transformation. Le groupe Auchan a mis 3 milliards sur la table, donc c'est pas une décision de technocrate, c'est une décision d'entreprise privée qui met 3 milliards pour faire un laboratoire, pour inventer le commerce du 21e siècle. Est-ce qu'ils feront ou pas Europa City? Je ne sais pas. C'est ça l'enjeu. Ensuite, la question que vous avez posée, qui est très juste, ils veulent prendre 600 hectares. Donc effectivement, ma réflexion est très simple. Ils compensent comment? Est-ce que, par exemple, tous les supermarchés Auchan vont être une énergie positive? Est-ce qu'ils vont mettre 600 hectares en culture à un autre endroit? Le problème, c'est
que... Oui, parce que là, c'est quand même parmi les meilleures terres céréalières de France.
Oui, enfin, c'est les meilleures terres céréalières de France.
Parmi.
Mais enfin, c'est entre Roissy et Paris. Vous n'empêcherez pas que Paris devienne une des 4 capitales du monde. Il y a New York, il y a Los Angeles, il y a Shanghai et il y a l'île de France. C'est une capitale 11 millions d'habitants. Et c'est en train de devenir l'énorme métropole cœur d'Europe. C'est ça le vrai projet. Il y a 24 millions de clients, donc la plupart arriveront en avion. Donc, le projet, on peut en discuter, hein, mais il faut faire attention, il ne faut pas trop le dire comme ça. Maintenant, si Auchan est prêt à compenser ce qu'il prend comme terre agricole, soit en terre, en mettant en culture des terres qui ne le sont pas, avec d'investissements très lourds, soit effectivement en garantissant en termes de pollution une compensation par tous les autres magasins, pourquoi? Il faut apprendre à négocier l'écologie. Et je pense qu'effectivement, pour l'instant, on ne sait pas bien la négocier.
Allez, il nous reste une petite minute. Questions courtes et réponses courtes. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour. Hélas, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Ma question, pour l'essentiel, c'était sur l'incompréhension des élites, justement, vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Et ce qui est dommage, c'est que l'approche de Jean Viard, qui semble réfléchie au départ, dérape très vite. Donc, dans ses propos, j'entends, par exemple, qu'on pourrait supprimer la pension de réversion pour obtenir l'égalité de retraite entre les hommes et les femmes.
Enfin, vous avez entendu ça ce matin, monsieur?
Pardon, Jean-Claude.
Non. Vous pouvez pas dire ça. Non, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Je suis désolé. Je n'ai marre des fake news. Je ne l'ai pas dit ça ce matin, monsieur. Je ne l'ai jamais dit. Je me suis battu pour les pensions de réversion. Je suis même allé à une réunion de travail sur ce sujet à Poitiers avec madame Schiappa. Je suis un des grands défenseurs des pensions. Je pense que la vérité doit être vraie pour tout le monde, même quand on pose une question à un intellectuel.
En effet, c'était, je confirme, vous n'aviez pas du tout soutenu cette position.
Je commence à me faire chier, ce mec.
Jean Viard, bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Jean Viard, avec nous sur France Inter. Il est 9h moins le quart. Bonne journée, tout de même.